Alors le dernier dimanche d'octobre, nous avons d'habitude une petite pensée pour le 31 octobre 1517, jour où Martin Luther, enfin en tout cas selon Mélenchon, aurait affiché 95 thèses pour réformer l'Église chrétienne. Cette commémoration, bien sûr, n'a pas pour but de nous rappeler la pensée de Luther. C'est marqué historiquement, ni celle de Calvin d'ailleurs. Mais que cette commémoration soit comme un rendez-vous marqué dans notre agenda avec peut-être cette mention « Pensez à me réformer un peu aujourd'hui ». Peut-être nous réformer ensemble. Alors en cette journée particulière quand même, d'autant plus que voilà, les chiffres ronds sont toujours un petit peu marquants, j'ai retenu pour aujourd'hui, pour notre époque, notre vie, un propos de table de Martin Luther, ou qui lui est attribué, on ne prête qu'aux riches. Un court témoignage de l'homme Luther, suroccupé à écrire un nombre invraisemblable de traités, des centaines de sermons, des dizaines de cantiques dont il a composé la musique et les paroles, et puis à inventer une église renaissante. Martin Luther aurait dit « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui » que je vais commencer par prier une heure de plus ce matin, sinon je ne m'en sortirai pas. » Alors cette phrase inspirante, je trouve, nous ouvre sur un Luther qui est un homme d'action, mais aussi un homme de prière, et qui arrive à se donner plus de temps par la prière. Alors cela m'a fait penser à un curieux passage du livre de Josué, au chapitre 10. Je vais vous lire les versets 12 à 15. Ce jour-là, Josué parla à l'Éternel et il dit en présence de tout Israël : Soleil, tiens-toi silencieux sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée de l'Aïalon. Et le soleil se tint silencieux, et la lune s'arrêta debout, jusqu'à ce que la nation ait achevé sa mission. Cela est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta pas de se coucher. Ce fut comme un jour parfait. Parfaitement parfait même. Il n'y eut pas de jour comme celui-là, ni avant ni après, car l'Éternel a écouté la voix d'un homme. Oui, l'Éternel œuvrait puissamment pour son peuple. Alors Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Alors ensuite, je vais vous lire un petit passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 6, les versets 31 à 34. « Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus ? Car cela, ce sont les païens qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait très bien de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de ma vie. » Alors, je vous propose de prendre votre petit recueil bleu, Louange et prière, et d'aller chercher le numéro 229. Alors, c'est un des cantiques. Il y a marqué 143. Attendez, voyons voir sur le panneau. C'est peut-être plutôt 143. Non, c'est bien, effectivement, le 229 que je vous propose. Hein, désolé, le 229. Donc, c'est un rempart que notre Dieu, donc on le connaît sous le nom de code de Einfestburg. C'est un des cantiques écrits par Martin Luther, paroles et textes. Et c'est effectivement une prière qui est très forte pour nous. Donc, les trois strophes du cantique 229. Désormais, mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache, toi que je suis prêt à servir, parce que toi seul as droit d'être mon Seigneur, je désire être ton enfant. Parle, je t'en prie, et dis ce que tu voudras, je sais que ce sera bon. Mais guéris et ouvre mon intelligence afin que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta volonté. Éloigne de moi l'égarement de l'esprit afin que je puisse te reconnaître. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, Père, et j'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras en fidélité. Je ne demande qu'une chose, mon Dieu, c'est que ton puissant pardon me convertisse entièrement à toi, afin que rien en moi ne s'oppose à tes efforts. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent, que j'aie en perfection l'amour de toi et l'amour de tes enfants que tu me commandes d'aimer. Alors c'est vrai qu'à cause du changement d'heure, nous avons ce dimanche une journée de 25 heures. Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai lu ce récit des aventures de Josué qui obtient par la prière que sa journée, lui, excusez du peu, fasse près de 48 heures. Je vous ai lu ce texte à cause de cette double figure de Martin Luther comme homme d'action, mais aussi comme homme de prière, longuement, chaque jour. Martin Luther aurait donc dit quelque chose comme « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je vais commencer par prier une heure de plus, sinon je ne m'en sortirai pas. Comment est-ce possible ?» Cela semble aussi aberrant que la prière de Josué qui ralentit la marche de la lune et du soleil en plein ciel, de sorte que sa journée lui laisse deux fois plus de temps pour faire ce qu'il a à faire. Mais est-ce réellement ce que veut nous dire ce texte ? Nous prenons donc pour des naïfs prêts à croire à des histoires de fées et de lutins. Je ne pense pas, bien sûr, poser la question, c'est un peu y répondre. Mais quand on regarde le texte de plus près, sans qu'on laisse les traductions essayer d'arranger un peu les choses pour nous les rendre plus crédibles, ça fait l'inverse à mon avis, mais ce texte nous invite plutôt à avoir, grâce à Dieu, un plus juste rapport au temps que nous avons et au temps dont nous manquons. Josué a une mission à accomplir, c'est sa vocation, avec son peuple, pour son peuple. Une journée infiniment trop chargée se présente. Lui aussi, comme Martin Luther, prend un temps pour prier et pour demander ce qui semble impossible, avoir le temps de faire ce qu'il n'a matériellement pas le temps de faire. Alors cette question de notre juste rapport au temps dont nous disposons, ne se pose pas simplement quand le temps nous semble trop court, elle se pose aussi quand la journée nous semble interminable et que nous nous ennuyons à mourir, même que l'aiguille des minutes de la montre semble collée à l'écran. Une solution est de prendre en urgence, alors, un moment pour prier, nous dit ce récit. Serait-ce une fuite hors de la réalité pour se réfugier dans la dimension spirituelle, qui est une dimension de l'éternité ? Nullement, à mon avis. Martin Luther, comme Paul, comme Jésus, sont des hommes de prière. Ils ont des périodes de retrait du monde, mais c'est pour se concentrer sur la relation à Dieu Et puis ensuite, ils sont retournés dans le monde pour agir. Ils étaient des hommes d'action et des hommes de prière. Ils étaient des hommes de prière pour être des hommes d'action. D'ailleurs, la prière de Josué est motivée par son action et quand il prie, il regarde le monde et sa géographie. Il ne s'en extrait pas. Il regarde ceux qui sont autour de lui, ce peuple dont il a la charge. « Soleil, tiens-toi silencieux sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée de l'Ayalon. » Et le soleil se tint silencieux, et la lune s'arrêta jusqu'à ce que la nation ait achevé sa mission. Curieuse prière, pour apprendre la politesse au temps qui passe ou qui a de la peine à passer, de jour comme de nuit. Avoir suffisamment de temps pour accomplir ce que nous avons à faire, avoir suffisamment à faire pour le temps que nous avons. Ajuster temps et action dans notre journée d'aujourd'hui. La structure littéraire de ce texte de Josué montre que l'action et la prière se conjuguent. L'ensemble du chapitre et même l'ensemble du livre de Josué est en fait un récit des œuvres de Josué. Mais si on peut le lire heureusement au sens figuré, c'est quand même le récit d'une conquête guerrière du pays de Canaan. Ce style a le style d'une épopée. Alors que les versets 12 et 13 de ce chapitre 10 sont particuliers, ils appartiennent à une forme littéraire radicalement différente. C'est un poème de quatre vers, avec ce rythme et ces allitérations caractéristiques de la poésie hébraïque. Des indications ont même été ajoutées sous les lettres, sur les lettres, pour indiquer comment le chanter. La prière de Josué est donc une incrustation poétique au milieu d'une narration, d'une épopée. Alors je crois que c'est déjà une belle et bonne piste pour vivre notre propre épopée, car notre journée est faite pour être ainsi, un cheminement, qui donne sujet à une narration, à des choses qui se sont passées. Mais incruster un temps de beauté, un temps de poésie, un temps de prière, un temps d'élévation dans notre journée. Pas pour sortir de ce monde, mais pour pouvoir y arriver, en vérité. Et faire de la journée entière, comme dit ici dans ce texte, en conclusion, une journée unique en son genre. Et même, nous dit le texte, une journée parfaitement parfaite, tamim. Alors c'est exagéré ? Peut-être pas en fait. Il faudrait seulement juste un petit prodige pour y arriver, et puis peut-être aussi un peu de bienveillance pour regarder ce qui a été parfait et unique dans notre journée, quand enfin le soir se couche. Et dans la prière aussi, Dieu peut nous donner ce regard de bienveillance sur notre propre journée, peut-être. En tout cas, Josué nous propose de demander à Dieu d'accomplir ce prodige. Et c'est remarquable qu'il ne parle pas d'une vie parfaite, mais déjà d'une journée exceptionnelle par sa dimension de perfection et puis par le fait que Dieu a entendu. À chaque jour suffit sa peine, comme le dit Jésus. Et pour cela, pour que cette journée effectivement vaille la peine, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Demandez l'action de Dieu pour qu'il nous ajuste finalement, nous et notre vie. Notre action et cette journée qui est là, devant nous, pour la journée d'aujourd'hui. Puis demain, on verra autrement, en faire une œuvre d'art de cette journée, modestement. Prier, alors c'est vrai que c'est du travail en plus. Ça consomme de précieuses ressources de temps, de préoccupations, d'énergie, peut-être aussi de moyens matériels. Mais ce n'est pas au détriment de notre mission dans le monde, bien au contraire, nous dit ce texte. C'est comme ça qu'il y arrive, en fait. C'est pourquoi Josué et Martin Luther prennent d'autant plus de temps pour prier qu'ils ont besoin d'un miracle d'autant plus prodigieux pour ajuster le temps et le boulot à faire, ou inversement. Prendre le temps d'incruster un instant de poésie et de prière dans notre course en avant, dans notre épopée. C'est le rôle du culte dans notre semaine, c'est le rôle du culte personnel, intime, dans notre journée, c'est le rôle de ces prières, de ces chants et de cette musique dans la trame de notre culte que nous avons aujourd'hui. pourtant si attachés à la recherche du sens intelligible. Et donc merci, oui, à nos organistes pour ce qu'ils ajoutent en ce domaine. Merci à vous pour votre chant, pour votre émotion, si sensible en fait, quand nous sommes ensemble, enrichissant ce temps de culte pour nous tous. C'est extraordinairement précieux, une incrustation de beauté, d'émotion et de prière dans notre course. Alors ce n'est pas pour rien que le mot même de prière, de poème en grec, c'est le même, le français, le décalque du grec, dérive du verbe poieo qui veut dire faire. Ce temps de beauté, ce temps de poésie est encore un temps qui fabrique quelque chose, qui nous fabrique. Alors l'itinéraire de Josué est ponctué par des passages dans des sanctuaires. Avant et après ce passage, il est à Gilgal, avec le peuple. C'est lui-même Josué qui a construit ce sanctuaire de Gilgal en disposant en cercle peut-être ou en monceau des pierres qu'il demande aux 12 tribus de ramasser dans leur prodigieuse traversée du Jourdain. Et ce sanctuaire, Gilgal, veut dire la roue. C'est un sanctuaire pour se souvenir et remercier Dieu d'être pour nous comme une roue qui nous permet d'avancer tous ensemble en traversant les obstacles, comme une roue permet de le faire. Il nous importe de passer par nos Gilgal pour entretenir cette mémoire, cette gratitude et cette confiance en Dieu et que cela change notre vie. La Bible est pour nous un formidable Gilgal. Alors ce que je retiens de plus beau dans ce que Martin Luther nous a apporté, parce qu'il y a du moins beau aussi, c'est de nous inviter, nous personnellement, à aller visiter régulièrement cette mémoire de la Bible, de l'étudier personnellement et de la prier sincèrement. Luther insiste avec virulence pour dire que si nous nous limitons à une démarche purement philosophique, exégétique, théologique, nous transformons même Moïse en philosophe, ce qui dans sa bouche n'est pas un compliment, et que c'est une ruse du diable pour nous perdre en fait. C'est vrai que Gilgal n'est pas une maison d'études, mais c'est un sanctuaire. La Bible est faite pour être étudiée, bien sûr, et Martin Luther est un exégète. Il connaît son Aristote, confesse-t-il. Il connaît aussi son Thomas d'Aquin, son Augustin. Il utilise les outils de la philosophie, même s'il s'en défend, mais il prie aussi. Par-dessus tout, il prie, et il prie beaucoup. Comme Gilgal, la Bible est une œuvre collective où de multiples personnes ont ajouté chacune leur pierre pour dire à leur façon que Dieu les a aidés à avancer concrètement dans leur vie. Nous pouvons aussi dresser notre propre petit Gilgal personnel en plus, avec la mémoire de ce que Dieu a fait pour nous et le témoignage aussi, la pierre qu'ont ajouté peut-être aussi nos proches et que nous ajoutons à notre sanctuaire en le recueillant précieusement dans notre mémoire. C'est ainsi que l'or qui vient d'être baptisé a été en partie porté par la foi de son arrière-grand-mère, et il y a ajouté sa propre expérience de Dieu dans sa vie, et qu'ainsi il y a un petit Gilgal si précieux qui s'ajoute à ce Gilgal qui est constitué autrement. Donc Josué va et vient en passant par Gilgal, mais il y a autre chose dans la vie que de méditer sur le passé. La prière de Josué est dans le présent, dans la journée d'aujourd'hui, afin que la puissance de Dieu se manifeste encore aujourd'hui en ajustant notre temps et faire de cette journée une journée unique et parfaite en son genre. Cette prière est préparée par celle faite à Gilgal et son exaucement nourrira nos Gilgal de demain. Ici donc, Josué est devant une tâche qui lui semble insurmontable, impossible à accomplir avec le temps dont il dispose. Il prie alors Dieu, nous dit le texte. Alors pourtant, c'est au soleil et à la lune qu'il semble s'adresser, comme un aztèque peut-être. Mais Josué, en fait, arrive de Gilgal et sa prière est encore toute nourrie de passages bibliques qui lui reviennent en mémoire. Et dans son problème de gestion du temps, lui vient finalement en mémoire cette page bien connue qui va l'aider à avancer dans sa propre prière. Dieu dit « Qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, et que ce soit des signes pour les temps, les jours et les années. » Et il en fut ainsi. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un quatrième jour. Et donc le soleil et la lune sont dans le passage de cette première page de la Bible, de la Genèse. Le soleil et la lune sont des signes du temps et des époques. Arrêter la lune et le soleil signifie dompter le temps, le domestiquer. Par ailleurs, les verbes employés dans la prière de Josué n'ont pas de sens, en fait, au sens matériel, pour le soleil et pour la lune. En effet, Josué demande à Dieu que le soleil et la lune se taisent, damam en hébreu. Partout, c'est traduit par « se taire », sauf là où le traducteur met « bon, alors Dieu, la lune ne peut pas se taire, le soleil non plus », parce que, évidemment, personne n'a jamais entendu le soleil parler au sens du matériel du terme. Donc ils ont mis un peu autrement, qu'ils se tiennent tranquilles, qu'ils se tiennent immobiles. Bon. Et ensuite, le résultat, bon, est que le soleil se tait, effectivement, et que la lune se tient debout, Hamad. Alors ça aussi, c'est bien rare que la lune se tienne debout sur les petites jambes qu'elle n'a même pas, en fait. Cela ne laisse pas penser qu'il faille comprendre ce texte autrement que métaphoriquement. Comme d'ailleurs le début de la Genèse, où la lumière apparaît avant le soleil et la lune, quand même, et les étoiles. Donc Josué demande à Dieu de l'aider à conjuguer le temps qui passe et le travail qu'il a à faire, de sorte qu'il puisse l'accomplir et que tout son peuple puisse être sauvé, et que personne, pas un seul de ce peuple, soit abandonné par manque de temps, et qu'on n'ait pas eu le temps de finir le boulot. Dieu répond à sa prière et c'est un miracle, faisant de cette journée une journée unique, parfaite. Alors comment est-ce que ça marche? Ce n'est pas une sortie de ce temps qui coule. En effet, le soleil ne se dépêche pas d'aller se coucher, nous dit le texte. Il ralentit, il permet d'en faire plus, mais il coule quand même. Ce n'est donc pas une fuite hors du temps, dans une autre dimension, dans cette éternité du temps. La prière de Josué est que le soleil et la lune se taisent. Je lis ça comme la fin de la tyrannie du temps sur nous, sur notre vie. Ce n'est pas au temps de fixer le sens de notre vie. Le temps est comme une matière première. Et avec l'aide de Dieu, nous pouvons le domestiquer de sorte que ce que nous avons à faire et le temps que nous avons puisse être ajusté. Et pour cela, Dieu fait deux choses, en fait, dans ce texte. D'abord, il ajuste la tâche que nous avons à faire. Et ça paraît peut-être moins clairement, parce que nous sommes tellement fixés par cette histoire de lune et de soleil avec une course prodigieuse que nous ne l'avons peut-être pas fait si attention. Mais cela veut dire, effectivement, que nous pouvons négocier avec Dieu le travail à faire, notre vocation. Et pour cela, il faut faire le point et il faut prier. Alors oui, on peut avoir des tas de projets, imaginer des idées, de choses à faire, de choses à éviter, mais on peut le faire avec lui, on peut le faire dans un dialogue avec lui, discuter. Et dans ce récit, Dieu fait un autre miracle que celui d'allonger le temps. Dieu fait aussi une grande partie du travail à faire. Et ça aussi, ça ajuste la vocation que nous avons. C'est un travail d'équipe avec Dieu. Reste à discerner ce que nous pourrions faire pour ajuster notre propre pierre à la création du monde, ni trop, ni trop peu, selon notre sensibilité, notre point de vue, nos forces, nos faiblesses. En priant avant de se lancer dans un ouvrage qui nous semble insurmontable, comme le suggère Martin Luther, nous pouvons recevoir d'ajuster ce que nous pensons être notre vocation, peut-être simplifier certaines choses. Ensuite, Dieu peut ajuster le temps que nous avons, comme nous le voyons avec ce prodige sur la lune et les étoiles et le soleil. Mais pas matériellement. Même Dieu ne peut pas faire qu'une minute fasse plus que 60 secondes sur la montre, les trotteuses de notre montre. Mais la valeur d'une minute de temps matériel peut vraiment être extrêmement variable pour nous. C'est une question de concentration, finalement. La prière permet, je pense, d'être plus présent à notre présent, d'être plus concentré sur le sens de ce que nous avons à faire, sur l'essentiel, d'être plus éveillés, d'activer des capacités que nous ne pensions pas avoir, comme Moïse qui croyait être incapable de parler. La prière peut nous aider à nous concentrer sur l'essentiel, sur notre vocation, sur ce que nous pouvons faire. Pendant une partie de sa vie, Martin Luther a été obnubilé par son salut, sa vie éternelle, sur le jugement de Dieu, au point de ne rien pouvoir faire d'autre jour et nuit que d'essayer de gagner la vie éternelle que Dieu lui avait déjà donnée de toute façon par grâce, comme à chacun d'entre nous. Grâce soit rendue à Jésus-Christ et aussi un petit peu à Luther et Calvin, nous n'en sommes plus là dans cette crainte du jugement de Dieu. Mais reste la recherche de se faire valoir à nos propres yeux, ce qui revient en fait au même, mais dans une façon d'exprimer cela, plus moderne, plus contemporaine peut-être. Et en réalité, cela se traduit par d'importantes préoccupations parasites qui nous empêchent de nous concentrer sur l'essentiel, notre vocation. Dans la prière, Dieu peut nous aider à faire tomber cette pression nocive et être ainsi plus présent à notre présent et à l'aujourd'hui de notre vocation. Être présent, c'est le sens de cette expression hébraïque qui nous est si chère à nous, lecteurs de la Bible, « Hineni », le « me voici » en hébreu, répondu par celui qui s'éveille à la vocation de Dieu, qui l'appelle par son nom, qui redouble même ce nom, « Abraham, Abraham, Moïse, Moïse, Marthe, Marthe ». Cet appel de Dieu, ce « Hineni » qui répond, ces serviteurs qui se tiennent tout d'un coup debout, même si c'est dans la nuit de nos ténèbres, pour avancer, comme la lune, effectivement, se tient debout en exaucant la prière de Josué. Être présent à son présent et à cette vocation, négocier avec Dieu directement. C'est une extraordinaire mise en valeur du temps matériel dont nous disposons, de chacune des minutes de notre journée. Prendre le temps de demander à Dieu d'ajuster notre temps et notre vocation comme un ébéniste ajuste les deux parties d'une queue d'aronde qui tiennent après cela si bien qu'il n'est même pas la peine de mettre de la colle. Cette prière, c'est une louange à Dieu. C'est la joie d'exister en ce monde, d'en respirer l'air. C'est une louange pour la beauté de la vie en ce monde. C'est espérer plus et mieux encore, oser espérer. C'est aimer le temps qui nous est donné comme un temps précieux, comme un cadeau, comme l'or dont l'orfèvre va faire un bijou pour embellir un peu. C'est aimer les autres, cette prière, ceux qui nous sont confiés, de s'en sentir un peu responsable à notre mesure, d'une certaine façon, selon l'appel de Dieu, et d'y mettre son cœur. Amen.